Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Kings et des Pelicans dans la conférence Ouest, de la prolongation de contrat du Jamal Mosley à Orlando et de plein d'autres sujets. Pour m'accompagner, je salue immédiatement Charles. Salut Charlie!
Salut Josh, salut à tous.
Comment ça va Charlie depuis la semaine dernière?
Oh bah écoute, ça va, hein. Plus on se rapproche des playoffs et mieux ça va.
C'est clair, c'est très très sympa cette fin de saison.
C'est clair. Et avant les playoffs, surtout le play-in dont on attend monts et merveilles.
Ouais, on en parlait justement off, toi et moi, juste avant de commencer, juste avant d'appuyer sur record. Et j'ai hâte de faire ce numéro sur le play-in parce que on va avoir des clubs qui ne veulent pas être là et qui, si ils ne passent pas ce stade du play-in, il va y avoir des grosses conversations à avoir, quoi.
Oh oui, oui, bah c'est, je pense que une fois qu'il y en aura eu deux éliminés, notamment à l'Ouest, il y aura beaucoup de changements à faire dans certaines franchises. Ouais.
Mais on va en parler, je pense, naturellement dans ce numéro, un petit peu tout du moins, puisqu'on va parler des Pelicans et des Kings, qui sont 5e et 6e de la conférence Ouest, qui ont tous deux des profils intéressants et qui sont tout ça se joue pour l'instant dans un mouchoir de poche. Ce sont deux clubs qui sont pas exempts de terminer dans le play-in, notamment d'ici la fin de la saison. J'aimerais savoir, Charlie, est-ce que tu as remarqué, c'est un truc qui m'amuse depuis quelques jours, plusieurs journalistes américains pointent du doigt le fait que le scoring est en baisse depuis le All-Star Game. Il y a 4 points en moyenne de moins inscrits sur l'ensemble de la ligue. L'efficacité offensive est passée de 115 points en moyenne toutes les 100 possessions à 111. Cette semaine, les Knicks et les Sixers ont disputé le premier match depuis 8 ans où deux équipes ne parviennent pas à dépasser les 80 points inscrits. La NBA n'a donné aucune instruction de modification sur l'arbitrage, rien du tout. Il n'y a pas eu de communiqué officiel. Johnny Mars n'a pas pris un micro pour dire « Hey, on va siffler les matchs différemment, on va faire les choses un peu différemment ». Non, rien. Alors, il y a Bill Simmons, notamment, Thomas Bechtrau également, qui ont pointé du doigt ce truc-là. Bill Simmons, il a une théorie drôle, c'est qu'il dit, tiens, la NBA, c'est peut-être dit, on va habituer les joueurs dès maintenant aux règles FIBA. Ça m'a fait hurler de rire.
Tu m'étonnes.
Parce que comme ça, les joueurs, ils seront pas surpris de pas se faire siffler des fautes lors des Jeux Olympiques. Ça va être très drôle. Je trouvais ça très marrant. En vrai, Thomas Bechtrau, lui, a souligné le fait que cette tendance remonte plus à la fin janvier qu'au All-Star Game. Bref, depuis le All-Star Break, il a quand même fait l'étalage des chiffres et c'est assez drôle. J'aimerais juste les présenter rapidement. Après, tu me diras ce que t'en penses. Les arbitres sifflent 1,65 fautes en moins en moyenne toutes les 100 possessions. Ça fait 2,5 lancers francs tentés en moins en moyenne, soit 2,1 point de moins en moyenne toutes les 100 possessions inscrits. Tu peux expliquer également cette baisse d'efficacité par la blessure de certaines stars. On pense notamment à Joel Embiid et à d'autres, Julius Randle, Onyx, et ainsi de suite, pour expliquer cette baisse. Il est toutefois ressorti qu'en moyenne, les équipes tournent depuis le All-Star Game, donc en moyenne, hein, à 98,05 possessions sur 48 minutes. 48 minutes, c'est la durée d'un match. Soit un rythme de jeu en baisse qui n'a plus été vu depuis la saison 2016-2017. C'est pas rien quand même.
Ah, c'est clair. Hein.
Ça fait un sacré écart. Et la moyenne avant le All-Star Game, elle était de 99,71 possessions toutes les 48 minutes. Donc c'est une baisse de 1,66 possessions depuis le All-Star Break, qui est la variation la plus élevée de la décennie entre avant et après le All-Star Game. Pareil, un chiffre qui est assez intéressant. Grosso modo, en résumé, il y a clairement moins de coups de sifflet, il y a des possessions plus longues, une possibilité accrue pour les défenses d'agir sur les attaquants, ce qui induit également plus de fatigue pour les joueurs en conséquence. Si on associe les 1,6 possessions en moins aux 1,15 points par possession, si on fait une multiplication entre ces deux chiffres-là, les 1,15 points par possession, qui est la moyenne de l'efficacité offensive de la Ligue, on a les 4 points de chute au scoring. Je ne sais pas si cette décision est volontaire, je ne sais pas si tu l'as ressenti toi-même, Charlie, en regardant les matchs, mais Je sais pas ce que t'en penses. Je m'étais jamais posé la question de savoir est-ce que je trouve que c'est mieux ou moins bien arbitré depuis le All-Star Game. Pour moi, c'était la simple excitation de l'approche des playoffs qui, où je me dis, tiens, c'est cool, ça se passe bien en ce moment, la NBA. Alors que j'ai râlé, hein, vous m'avez entendu râler au micro du podcast il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas, est-ce que t'as remarqué quelque chose, toi, ou pas?
En fait, c'est surtout en regardant les matchs des Knicks, moi, que j'ai remarqué, parce que les Knicks, il y a quand même eu, je crois, 3 ou 4 matchs d'affilée où ils ont maintenu leurs adversaires sous les 80 points, ce qui est solide. Surtout que c'était les Sixers, Orlando, bon, c'est peut-être pas les plus grandes attaques de la ligue, mais enfin, c'est quand même des équipes sérieuses.
Mais sur les coups de sifflet, toi, sur les coups de sifflet des arbitres qui, on était tous là à dire, bah, ça attache beaucoup trop les joueurs offensifs. T'as ressenti quelque chose ou pas là-dessus?
Non, ça m'a pas marqué pour le moment. C'est peut-être aussi parce que l'échantillon est pas assez important. Maintenant,
tout à fait.
Écoute, attendons de voir comment ça évolue, parce que si c'est effectivement une tendance, ce serait bien que ce soit une tendance lourde, parce que moi, tu le sais, je suis plutôt friand du playoff basketball et de la défense. Donc j'attends de voir si ça se maintient sur la durée. C'est vrai que avant le All-Star Game, quand il y a eu plusieurs articles sur le fait que les chiffres offensifs de la ligue étaient absolument hallucinants, mais ça n'avait pas l'air de déranger les responsables de la NBA tout simplement. Donc est-ce que c'est des consignes qu'ils ont fait passer? C'est difficile à dire pour le moment. Il faut attendre de voir et avoir un échantillon plus important, je pense.
Ouais, fait assez amusant également. Maintenant que j'ai lu tous ces articles, que j'ai écouté les podcasts où ça parlait de ça, j'ai aussi noté pendant les matchs que je regardais ce matin Boston contre Phoenix, je note également que plusieurs commentateurs n'arrêtent pas de souligner le fait que regardez les arbitres, là ils ont pas sifflé, là ils ont pas sifflé, regardez là c'est pas une faute et ainsi de suite. Je sais pas. je trouve ça amusant en tout cas. Donc, chers auditeurs, si vous avez remarqué des trucs, n'hésitez pas à nous le dire sur la page YouTube, sur sur les commentaires du podcast. Si voilà, YouTube c'est peut-être le meilleur moyen pour communiquer avec nous. Vous pouvez laisser vos commentaires. Il y a les vidéos, des podcasts sont lancés. Alors, vous nous verrez pas parler, hein. Il y aura juste le logo du podcast. Voilà. Mais c'est assez amusant. Je voulais également parler avec toi, Charlie, dans l'actualité d'Alperen Şengün, qui est out pour la saison après sa grosse entorse et sa blessure au genou, hein. Il a eu les deux. C'était face aux Kings. Voilà, donc il a évité le pire, j'ai envie de dire, manifestement. Ça va pas être la grosse opération, la grosse remise en question de ce qui pourra remarcher un jour. Non, apparemment il va s'en remettre et plutôt bien, j'espère en tout cas.
Ah ouais.
Je voulais en parler parce que Şengün, je trouve, est pour moi, à mes yeux, une des plus grandes révélations de cette saison avec les Rockets. Hein, on en a parlé au début de saison. Après, c'est un peu redevenu retombé les Rockets. Ils ont végété un petit peu au milieu de tableau avant de complètement s'extraire de la course aux playoffs. Ils sont juste en dessous. Ils sont 11e, hein, je crois. Mais voilà. J'adore cependant regarder cette équipe jouer. Şengün s'est pour moi installé durablement aujourd'hui en tant que joueur autour duquel il va falloir construire. Jalen Green, qui s'en est pris plein la tronche en début de saison, qui a été pris, je crois, dans la même draft que Şengün. Je ne sais pas si tu peux vérifier ce que je suis en train de dire. Est-ce que je suis en train de dire une connerie ou pas, mais il me semble que oui. Il me semble que Jalen Green était deuxième pick et Şengün était en milieu de tableau. Bref. Jalen Green montre plusieurs choses là, enfin montre des vraies choses sur les derniers matchs. J'ai l'impression que côté Houston, tous les espoirs sont permis. Et tu vois, j'étais en train de me dire, parce qu'on dit souvent Alperen Şengün, c'est Baby Jokic, bien que c'est un joueur très différent, très différent, pas complètement différent, mais ça serait injuste d'attendre d'Alperen Şengün qui soit comme Jokic. Cependant, j'étais en train de me dire, est-ce que Jalen Green serait capable de devenir, entre guillemets, son Jamal Murray, quoi?
Oui, et puis l'affiliation entre les deux, elle existe aussi, parce que Jokic a beaucoup parlé d'Alperen Şengün, qu'il l'a pas mal mis en avant, etc., etc. Bah, cette blessure, elle est triste, dans le sens où sauf erreur de ma part, elle va le disqualifier pour les trophées de fin de saison, et notamment pour le trophée de meilleure progression. Donc ça, c'est un peu dommage.
C'est vrai.
Maintenant, écoute, tu l'as dit, il a évité le pire. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Moi, la question que je me pose, et ça, j'avoue que j'ai pas la réponse, c'est par rapport à cet été, mais j'imagine que cet été, je sais pas du tout si la Turquie est au JO, je sais pas du tout ce qui va en être de sa participation éventuelle. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est une des révélations de la saison. C'est un joueur qui est hyper agréable à avoir joué. Moi, je suis très très fan de ce qu'il a fait, et j'espère que ça sera pas un frein pour sa progression. Là, il est dans sa troisième saison NBA. C'est vraiment normalement la saison où ça doit décoller, et c'est bien ce qui s'est passé dans son cas. Donc, on espère que l'année prochaine, il pourra continuer sa montée en puissance.
Oui, il me semble, ça c'est pareil. Là, sa fin de contrat rookie, elle arrive là. À la fin de la saison prochaine, donc je pense qu'il va être éligible pour une prolongation cet été. En tout cas, pour moi, il a clairement démontré que c'était le joueur autour duquel fallait construire.
Ouais, bah c'est clair. Je suis
pour moi, aucun doute. Jalen Green, je suis content. Enfin, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur forcément. Jalen Green, en tout cas, quand il jouait avec Porter là, ce duo-là ne me plaisait absolument pas. Le gros jeu en isolation qui tâche. Ouais. Non merci. Là, je trouve que il y a peut-être une possibilité pour Ime Udoka de reconstruire. Enfin, c'est ce qui se passe. En mars, là, il a des chiffres absolument dingos, Jalen Green. Ime Udoka a peut-être l'opportunité de le responsabiliser un peu, de l'asseoir dans un rôle un peu plus conséquent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Cette équipe des Rockets, je pense, l'année prochaine va être un délice à suivre.
Ouais, je suis d'accord. Ça va être très très intéressant de voir la saison prochaine comment ils évoluent.
Tout je pense que ça peut faire une vraie surprise. J'aimerais pousser un coup de gueule, Charlie.
Allez.
Un gros coup de gueule, ça va te surprendre.
Hein. Ouais, je suis prêt.
Tu sais ce que je pense de Shai Gilgeous-Alexander?
Oui.
J'aime beaucoup Shai Gilgeous-Alexander.
Encore heureux.
Depuis très longtemps. En revanche, je tiens à dire toute la déception que j'ai ressentie dans la défaite face aux Pacers, le fait qu'il est allé chercher à 10 secondes de la fin du match son 30e point après avoir fait une faute volontaire sur Andrew Nembhard, et ensuite aller chercher son petit layup pour poursuivre sa série de victoires. Donc il est passé ce soir-là, il était passé devant Kevin Durant qui avait fait une série de 47 matchs consécutifs en 2009 puis en 2013 à plus de 30, à 30 points ou plus. Voilà, l'ironie en plus est là, et donc là hier soir il a poussé la série à 49, donc la série est toujours en cours. Personnellement, j'ai profondément détesté ce moment. Je trouve que c'est une mauvaise mentalité, une mauvaise façon de faire, une technique de forceur, et ça m'a énormément déçu. Je suis incapable de regarder ça en restant de marbre. Je trouve ça petit, en fait.
Je comprends. Je suis d'accord avec toi, mais je comprends aussi pourquoi il l'a fait, parce que dans quelques années, quand on consultera les records de franchise du Thunder, tout ce qu'on verra, c'est sa série de points, et on n'aura pas les détails de comment il l'a atteint. Donc, ce comportement deviendra une péripétie dont personne ne se souviendra. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas classe, quoi. Et puis avec son talent, c'était pas la peine de faire ça, parce que s'il avait pas dépassé KD cette saison, il l'aurait dépassé dans un ou deux ou trois ans. Bon,
je sais pas, j'ai pas envie de jouer au vieux con, mais les joueurs qui sont ultra conscients
Et ils le sont tous ultra conscients de leur stats, sauf quelques exceptions. Je pense qu'on pense au même bonhomme en termes d'exception là-dessus. Je pense qu'effectivement, un mec qui a la mentalité d'un Jokic, effectivement, se fout de ce genre de truc. Mais je pense que 99% des joueurs NBA sont extrêmement conscients de leurs chiffres.
En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment suer, cette histoire. J'aime pas.
C'est parce que t'attends trop d'eux.
Ça me la fout mal, probablement.
T'attends trop des joueurs NBA. Moi, j'ai renoncé. J'ai compris que on était dans la ligue du record et de l'individualité. Et qu'en saison régulière, il faut pas s'attendre à autre chose, quoi.
C'est sûr et certain. Heureusement, la puissance du collectif a encore un sens malgré tout, parce que le basket reste un sport qui est pur à mes yeux. Donc
tout
voilà.
À fait.
Et justement, je voulais terminer cette revue de l'actualité en parlant des Nuggets qui sont installés à la première place à l'Ouest. Ça y est, alors je crois pas. Attends, tiens, je vais virer. Non, non, Oklahoma, Oklahoma est passé.
Non, là,
Oklahoma est passé devant eux hier soir. Je crois que
ils ont le tiebreaker, je crois.
Ils ont le tiebreaker, ouais. Donc zut alors. Donc je vais pas pouvoir faire mon victory lap.
Non, mais je dis, il est incroyable quand même.
Je voudrais juste dire que le trio Jokic, Murray, Gordon est en total contrôle depuis le All-Star break. Moi qui mate tous leurs matchs, c'est un pur bonheur de les regarder jouer en ce moment.
Ouais.
L'équipe déroule, elle est en train de monter en puissance. Le calendrier est très favorable aux Nuggets. Donc, et clairement, ils sont en train de se battre pour accrocher cette première place. Hein. La lutte avec le Thunder va être passionnante à suivre jusqu'à la fin de la saison. Et j'en suis très heureux parce que ça, c'est aussi bon pour nous en tant que fans. Ça veut dire qu'on va avoir du spectacle. Ça veut dire qu'on va avoir des joueurs qui se donnent à fond. Et cette équipe des Nuggets, alors, voilà, je suis ultra fan de cette équipe. Mais la puissance collective et la puissance des automatismes dont ils font preuve sur le terrain. Dieu sait qu'il y a eu plusieurs questions sur est-ce que Christian Brown et Peyton Watson, ça sera suffisant? Est-ce que le banc? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce qu'ils sont capables d'eux? Je sais pas ce que t'en penses, mais quand je vois les Nuggets jouer, pour aller les chercher sur une série au meilleur des 7, va falloir vraiment
ah ouais,
se sortir, enfin sortir son meilleur jeu de le meilleur jeu de la saison. Quoi.
C'est un beau rattrapage que tu viens de faire, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ils sont passés en mode playoff, ils sont incroyables, ouais. Franchement. On en parle, ça fait quelques semaines déjà qu'on dit que plus on s'approche des playoffs et moins les équipes ont de temps à perdre et que justement la saison régulière, c'est maintenant qu'il faut vraiment rentrer dans le vif et qu'il faut passer la vitesse supérieure en prévision des playoffs. C'est exactement ce que Denver est en train de faire. Jokic est, mais oh là là, il est extraordinaire. Le match face à Boston, mais tous les matchs depuis
le match face à Toronto, c'est n'importe quoi. Et puis c'est une équipe qui peut se retrouver régulièrement à la traîne dans le troisième quart-temps, puis tout d'un coup ils mettent le pied sur l'accélérateur.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça, pour moi, c'est la marque, la manière en fait dont ils gagnent les matchs, c'est vraiment le. Ça me fait rire parce que je suis fan de cette équipe depuis longtemps et je vois aujourd'hui cette équipe en train de devenir une équipe. Ça, c'est vraiment le gratin ultime de ce.
Oh bah aujourd'hui, il y a
de meilleur quoi.
Il y a que Boston qui peut les regarder dans les yeux aujourd'hui, pour le moment.
C'est assez drôle parce que. Je pense que je vais préparer ça incessamment sous peu. Peut-être qu'on pourra en parler la semaine prochaine dans le podcast. Il faut que je regarde le nombre de fois où les numéros 1 de chaque conférence se sont rencontrés en finale. Mais je crois que c'est pas aussi régulièrement qu'on ne le pense.
Non, 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 il y a souvent des surprises. Et, ouais. Et moi, si aujourd'hui je devais prédire une finale, je suis pas sûr que je prédirais un Denver-Boston. Quoi.
Non, parce que quoi qu'il arrive, les Nuggets, il va falloir se dépatouiller de cette conférence Ouest. Et encore une fois, on sait très bien, toi et moi, que les playoffs, c'est aussi et avant tout une question de match-up.
Ouais.
Le seeding, c'est bien. Avoir l'avantage du terrain, c'est bien. Michael Malone, quand il en parle, voilà, et c'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, si on a l'avantage du terrain sur la quasi-totalité des playoffs, voire la totalité, forcément, ça nous aide. Parce qu'être à domicile, surtout à Denver, c'est ultra positif. La conférence Ouest, quoi qu'il en soit, ça va être, ça va être pénible, quoi.
Ah, oh, tu m'étonnes.
Ça va être extrêmement pénible. Et il suffit que, après, voilà. Je touche du bois pour pas qu'il y ait de blessures, surtout pas, mais voilà. J'aimerais aussi, j'ai marqué dans mes notes, petit clin d'œil, et bravo à Bam Adebayo. Je pense que Bam Adebayo, sur les deux matchs que le Heat a joué face aux Nuggets cette saison, je n'ai jamais vu un joueur défendre aussi bien sur Jokic dans toute la NBA. Mec est une pure merveille du basket, Bam Adebayo.
Oui, et personne n'en parle alors que le mec est en train de faire une saison, mais de malade mental.
Il est trop fort.
Il est trop fort, Bam Adebayo. Aujourd'hui, il est largement dans le top 5 des meilleurs joueurs de la NBA à son poste et il n'est pas cinquième du tout.
Tu te rends compte que ce mec-là, quand même, est capable de défendre en un contre un contre Jokic, défendre en un et faire du bon boulot, en tout cas. Dis-moi un seul défenseur aujourd'hui dans la ligue qui est capable de défendre sur Jokic. je pense que Jokic est en train de toucher à ce statut de joueur totalement insoluble pour les défenses.
Ah, oui.
Il y a qui est comme ça dans la NBA aujourd'hui? Il y a lui, Doncic peut-être.
Ouais, bah oui.
Ça sera un débat à voir, tiens.
À terme, Wembanyama.
Ouais, voilà, peut-être, ouais, tu vois, enfin, bref.
Mais à terme, pas aujourd'hui.
Tout à fait. J'ai bien saisi ce que tu as dit. J'espère que les auditeurs aussi. Mais Bam Adebayo est capable de défendre sur Jokic, est capable de défendre sur Antetokounmpo, est capable de défendre sur n'importe qui quasiment.
Ah mais franchement, je pense sincèrement que c'est, à mes yeux, Bam Adebayo, c'est le joueur le plus sous-estimé de la ligue dans le rapport niveau réel et manière avec laquelle il est perçu par le grand public. Il est tellement fort, ce mec, c'est incroyable.
C'est un peu galvaudé cette expression, ouais, c'est un guerrier, tout ça, machin. Ça me gave un peu de dire ça parce que j'aime pas dire ça. Mais c'est vrai.
Ouais. C'est vrai. C'est le meilleur lieutenant possible pour Butler.
Bam Adebayo, c'est le joueur que tu as envie d'avoir dans ton équipe, quoi.
Oui.
C'est un des rares joueurs aujourd'hui NBA qui t'offre. Tu sais, en fait, c'est ça aussi la force des équipes en play-off, notamment. On le dit tout le temps dans ce podcast. C'est ta capacité à jouer plusieurs types de basket. De jouer grand, de jouer petit, de jouer vite, de jouer moins vite, de jouer à attaque demi-terrain, défense demi-terrain, attaque posée, nanana, pick and roll, tout ce que tu veux. Ta variété va beaucoup aider ton parcours en play-off. Le fait que tu puisses t'adapter à toutes les situations que tu as en face de toi. Et ben, Bam Adebayo, c'est typiquement le genre de joueur. C'est un couteau suisse, en fait.
Ouais,
il est capable de combler des brèches. Et je pense que quand tu es Eric Spoelstra, c'est un pur bonheur d'avoir un joueur comme lui sur ton banc dans ton effectif, parce que ce gars-là t'autorise à faire énormément de combinaisons et t'es sûr que sur ce mec-là, il y a zéro problème, quoi.
Bref. Ouais, non, vive Bam Adebayo. J'adore ce mec et franchement, il fait une saison incroyable.
Grave. Alors Charlie, si tu veux bien, on va commencer nos sujets principaux et j'aimerais commencer à parler du Magic. Coach d'Orlando depuis 2021, Jamal Mosley avait une tâche colossale devant lui au moment de prendre les commandes d'un club, on va pas se mentir, qui était en perdition depuis plus d'une décennie, on est d'accord ?
C'est clair.
3 ans plus tard, ils sont en passe de se qualifier en play-off sans passer par le play-in. Ils affichent en plus de ça la 4e meilleure défense de toute la ligue. Le front office ne s'y est pas trompé en prolongeant Mosley jusqu'à la saison 2027-2028. Charlie, avant de rentrer dans les détails, on est d'accord que le Magic, c'est une des plus belles histoires de la saison et surtout une des plus inattendues.
Ouais, surtout une des plus inattendues, effectivement, ce qui rend l'histoire particulièrement belle. Moi, c'est clair que je m'attendais pas à une progression aussi rapide. On avait quand même quelques attentes parce que le groupe était intéressant, mais de là à les imaginer se qualifier directement en play-off sans passer par le play-in, pas du tout.
On est d'accord, c'est absolument incroyable le boulot qui a été abattu par Mosley,
ouais,
avec cet effectif qui est extrêmement jeune. La plupart de ces joueurs-là sont entrés dans la ligue il y a 3, 4 ans, un truc comme ça. Je vais te dire, je suis extrêmement content de voir. Alors déjà, ils ont un duo. Le duo sûr et certain, les valeurs sûres de cet effectif, c'est Paolo Banchero et Franz Wagner, on est d'accord, ça c'est l'avenir. Je suis très heureux de voir Jalen Suggs, qui était décevant à son arrivée dans la ligue, mais qui n'a jamais rien lâché, qui s'impose aujourd'hui comme un défenseur les plus redoutés de toute la ligue, et qui commence enfin à rentrer ses tirs à 3 points, même si l'équipe elle-même est une des pires en termes d'adresse à 3 points, et à mon avis ça va leur jouer des mauvais tours en play-off, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard. Voilà, il y a un esprit d'équipe. Je trouve que Mosley a su imprimer et incarner une identité qui déteint sur les joueurs. Je sais pas si je ferais de lui mon coach de l'année, pour le coup. Je pense que Marc Degno du Thunder a probablement son mot à dire dans cette question. Mais en tout cas, Mosley, pour moi, est très certainement tout en haut de la conversation. Il n'y a pas à dire. Quand tu entends parler les joueurs du Magic de Jamal Mosley, c'est ça que tu... Enfin, tu te rends compte de sa proximité avec ses joueurs, tu te rends compte que ses joueurs ont envie de se défoncer sur le terrain pour lui. C'est Mo Wagner l'autre fois qui disait que c'était vraiment un coach extrêmement passionné, animé sur le banc, qui croyait en eux et eux en retour, ils ont envie de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour remporter la victoire, quoi. Et aujourd'hui, enfin, c'est quand même dingue qu'on parle de cette équipe comme quasiment une valeur sûre pour faire les playoffs, quoi.
Ouais, mais c'est ça, le groupe adhère complètement à son projet de jeu. C'est une des meilleures défenses de la saison, quatrième sur l'ensemble de la saison, troisième depuis l'All-Star Game. Ça joue bien. Bon, alors effectivement, offensivement, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas aberrant. Et puis, tu l'as dit, c'est une équipe qui est très très jeune. Banchero, 21 ans, Wagner et Suggs, 22. Il y a évidemment le temps de progresser en la matière.
Ils n'ont pas trouvé de meneur pour l'instant aussi.
Non.
Y a un manque dans l'effectif, tu vois. C'est pour ça que, personnellement, je les aurais jamais mis à ce niveau-là cette saison, quoi.
Mais c'est clair, c'est clair, et ils sont très convaincants. Il y a eu des très belles victoires récemment. Il y a eu les défaites face aux Knicks et aux Pacers qui sont un peu handicapantes parce que c'est des concurrents directs pour la qualification directe aux playoffs. Mais même sans ça, c'est une équipe qui est vraiment très très intéressante. Banchero, meilleur scoreur de l'équipe, All-Star dès cette saison. C'est très intéressant de voir ça. Franz Wagner, bah, je sais que toi tu l'adores. On a beaucoup parlé de ce qu'il avait fait cet été avec l'Allemagne. Il est hyper intelligent sur le parquet. Il est actif en défense.
Le rôle qu'il a eu dans le titre mondial pour les Allemands, c'est hallucinant.
Tout à fait. Donc à terme, il y aura peut-être une question qui se posera, qui sera celle de la hiérarchie entre les deux. Mais pour le moment, c'est pas la question du tout. Cette équipe, elle a du temps. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette équipe, elle a une marge de progression qui est énorme. L'attaque est encore en chantier. Tu l'as dit, l'adresse à 3 points est vraiment, vraiment pas terrible. Mais il y a tellement de possibilités pour la suite avec un groupe si jeune et si talentueux. D'autant plus que, visiblement, c'est des mecs sérieux. C'est pas juste un groupe de gamins qui vit sur son talent. Ça exécute bien, ça défend bien, c'est sérieux. Quand tu les vois jouer face à des équipes, entre guillemets, enfin, des équipes des bas-fonds, quoi, des équipes mal classées qui jouent les loteries piques, bah, ça joue bien. Ils les prennent pas, tu vois, ils les prennent au sérieux. Il y a jamais d'excès de confiance. Donc, ouais, la vraie question, c'est de savoir s'ils peuvent tenir cette cinquième place ou au moins réussir à éviter la septième, donc éviter de passer par le play-in. Ça va probablement aussi dépendre du niveau de leurs concurrents, puisqu'aujourd'hui, il y a des grosses cylindrées comme Miami ou Philadelphie qui sont 7e et 8e de la conférence, donc qui sont dans les places du play-in. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Je trouve que leur calendrier est assez favorable. Ils ont énormément de matchs à domicile d'ici la fin de la saison, et c'est une équipe qui est très forte à domicile. Donc j'ai bien envie d'y croire en ce Magic.
Je regardais un petit peu leurs points forts, points faibles. Alors, ils sont très mauvais dans le clutch cette saison, Orlando. Clairement, ils se reposent énormément sur leur défense. Hein, ça, on l'a dit et répété, c'est vraiment l'identité de cette équipe. C'est l'équipe qui
Et
va
du
le plus
coach.
sou. Et, ouais, tout à fait. C'est l'équipe qui va le plus souvent lancer franc. Hein. Désolé pour les haters des Lakers. C'est pas les Lakers. C'est le Magic qui a la plus grosse fréquence de présence au lancer franc cette saison. Ils perdent trop souvent la balle. Ils sont 26e en termes de perte de balle. Ça va pas du tout. Ils font trop de fautes. Leurs adversaires, alors, autant eux, ils sont premiers en tentative de lancer franc. Leurs adversaires vont également beaucoup au lancer franc. Orlando est 25e en termes de pourcentage de lancer franc accordé à l'adversaire, c'est ce qui est pas bon. Ils exploitent bien les balles perdues, ils arrivent bien à scorer sur les ballons perdus, fruit immédiat de la bonne défense. Cependant, c'est pas une équipe qui s'épanouit en contre-attaque pour le moment. Ce qui est assez contre-intuitif quand on parle d'une équipe jeune, hein, c'est la quatrième équipe la plus jeune de la ligue. Donc voilà, ils sont très très bons. Leur scoring, alors autant ça va pas à 3 points.
Non.
En scoring à l'intérieur, leur capacité à aller scorer au cercle, je crois que ils sont premiers dans le pourcentage de tirs enfin pris dans la raquette.
D'accord.
Donc selon Cleaning the Glass. Donc c'est elle est vraiment étonnante cette équipe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en playoff, parce que clairement, ça va être. Je pense que c'est une équipe qui va arriver avec aucune prétention. C'est quelque part pas miraculeux, mais c'est peut-être un peu exagéré de dire ça. Mais c'est inespéré s'ils se qualifient sans passer par le play-in.
Ouais.
Cette expérience sur des gamins qui ont 21 ans, 22 ans, je sais pas quoi, elle va être ultra bénéfique pour l'avenir. Mais de façon exponentielle, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, et puis en plus, enfin, tu l'as dit, ils ont aucune pression. Tu vois, comparé à d'autres équipes qu'on pouvait attendre un peu moins haut, tu vois, par exemple, je sais pas, une équipe comme les Wolves, on les attendait peut-être pas sur le podium à l'Ouest, mais les Wolves, ils ont déjà goûté aux playoffs ces dernières saisons et ils ont des objectifs en playoff, tu vois. Ils peuvent pas se contenter de se faire sortir au premier tour. Orlando, si ma mémoire est encore à peu près bonne, ils ont pas goûté au playoff depuis 2020. Et à l'époque, ils s'étaient pris une bonne petite rouste par les Bucks, il me semble. Donc ouais, y a, c'est que du bonus, en fait, ce qui va se passer d'ici la fin de saison pour Orlando. Ils ont progressé à une vitesse que personne ne pouvait imaginer. Donc évidemment, là, tout ce qui va se passer pour eux, c'est que du positif pour la suite. D'autant plus que, alors, j'ai pas le payroll sous les yeux, mais en théorie, ils doivent avoir un peu de marge en termes de masse salariale, parce que je crois pas qu'il y ait de gros contrats dans leur payroll. Donc j'imagine que Wagner va bientôt être éligible à une extension, mais ils doivent avoir de la marge la saison prochaine pour améliorer, bah, tu vois, par exemple, le shoot à trois points. T'as de quoi te mettre sur des dossiers de mecs capables d'en mettre quelques-uns, quoi.
Alors, le payroll, je l'ai devant les yeux. Et d'ailleurs, ils ont Anthony Black, qui est un joueur qui est extrêmement intéressant également, qui vient de débarquer. En termes de contrat, il va falloir prendre une décision sur Markel Fultz. Pauvre Markel Fultz. J'ai l'impression que ça sent quand même la fin. Gary Harris, va falloir décider aussi est-ce qu'il continue ou pas. Alors lui, il est là pour sa présence en tant que vétéran. Hein. C'est un des joueurs les plus vieux de l'effectif avec Joe Ingles, à voir s'il reste ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui fait du bien à cet effectif. Défensivement, il est solide. Je pense qu'il apporte quelque chose. Wendell Carter Jr. est signé jusqu'en 2026. Banchero, son contrat rookie, court jusqu'en 2026. Maurice Wagner, il a une team option pour l'an prochain. Jalen Suggs, deux team options. Donc il en avait une pour cette saison et une pour la saison prochaine. Cole Anthony est signé jusqu'en 2026-2027. Franz Wagner, en fait, ils vont tous être en renégociation.
Oui, parce que c'est ça, parce que Suggs et Wagner, c'est leur contrat rookie. Donc,
c'est ça.
Donc ils doivent pouvoir négocier une extension assez rapidement.
Et après, c'est Banchero qui va arriver sur la table des négociations.
Mais tu vois, tous les contrats que tu as cités là, bon, Fultz, c'est 17 millions, mais effectivement, on peut penser que ça sent la fin. Mais sinon, Carter Junior, c'est du dégressif, c'est autour des 10 millions. Gary Harris, bon, là, il prend 13, il y aura peut-être moyen de renégocier. Faut voir, mais il y a quand même des choses intéressantes à faire avec ça.
Ouais, complètement, ouais. Et au-delà ce qui pour moi change beaucoup des saisons précédentes, même quand cette équipe auparavant arrivait plus ou moins à produire quelque chose sur le terrain et éventuellement accrocher une place en playoff, c'est pas ça qui m'intéresse, moi, personnellement, parce que toi et moi, on sait très bien, tu peux végéter dans le ventre mou de la NBA ad vitam aeternam si t'as pas de talent de première main dans ton effectif. Et c'est ça qui est rassurant du côté du Magic, c'est qu'avec Paolo Banchero et Franz Wagner, t'as quand même deux gars sur lesquels tu peux vraiment, vraiment compter, quoi. Ouais. Et autour desquels tu peux construire. Après, en termes de complémentarité, je sais pas quoi penser aujourd'hui. J'ai pas du tout envie de faire la fine bouche parce que j'adore cette équipe et j'adore les regarder jouer. J'adore l'application qu'ils mettent sur le terrain. J'adore l'engagement qu'ils ont sur le terrain. Mo Wagner et Cole Anthony, je pense que c'est un de mes duos de remplaçants les préférés de toute la ligue. Ces deux joueurs, j'adore les voir jouer ensemble. Comment ils se montent la tête tous les deux en sortie de banc, c'est trop bien. Jalen Suggs, je suis hyper content de le voir à enfin répondre à toutes les attentes, parce que quand il est arrivé dans la ligue, Dieu sait qu'il y avait des attentes autour de lui et qui avait été déçu au début de sa carrière. Donc, je sais pas. Je suis très confiant sur l'avenir de cette équipe. Cette expérience en playoff, si tout va bien. Ça va être que du bonus pour cette équipe. Manifestement, ils ont potentiellement trouvé le coach qui va pouvoir conduire cet effectif. Franchement, ils cochent énormément de cases qui sont compliquées, en fait, le Magic.
Ouais, oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je te dis, la seule chose que j'attends, c'est de voir comment ça va se passer entre Banchero et Wagner. Qui va prendre l'ascendant, qui va devenir le vrai patron de cette équipe, parce que en général, il faut qu'il y ait un vrai patron dans une équipe. Mais sinon, effectivement, j'ai très très hâte de voir comment ça va se passer. Mosley, il a prolongé jusqu'en 2028. C'est tellement logique, c'est tellement mérité. Je suis d'accord avec toi. Moi, mon coach de l'année, c'est plutôt Daigneault, mais il est vraiment pas loin derrière. Et ouais, c'est trop bien, c'est trop trop bien. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer, tous ces mecs-là. Encore une équipe jeune qui nous surprend et qui nous montre des choses vraiment, vraiment intéressantes, quoi.
Je vais prendre le risque de dire une connerie, mais dans mon fort intérieur, je pense que Franz Wagner s'imposera naturellement comme le joueur le plus important des deux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Banchero et ce joueur est extrêmement intrigant, extrêmement fort, et je vois très bien ce que les gens voient en lui en termes de talent pur et ce qu'il apporte en fait sur un terrain. Et je pense que ces deux joueurs-là, s'ils arrivent vraiment à jouer l'un avec l'autre, enfin à jouer ensemble et à vraiment construire cette complémentarité sur le terrain, il y a vraiment quelque chose à construire, quoi. Ça, c'est difficile de dire comment ça va évoluer. Mais en termes d'efficacité, Franz Wagner est déjà un joueur plus, enfin, qui est très efficace en fait, qui apporte plein de choses, enfin, efficacité au tir, une certaine lecture du jeu, une capacité de défendre sur différentes positions. Je sais pas.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais pour le moment, je trouve que dans le jeu, c'est plutôt Banchero qui prend un peu l'ascendant.
Ouais.
Enfin, en fait, non, mais pas qui, je dis pas, en fait, qui prend l'ascendant dans le sens où, tu vois, c'est lui qui a le plus gros usage rate de l'équipe, c'est lui qui prend le plus de tirs. Pour le moment, je trouve que c'est lui qui prend le plus de place, mais je suis pas du tout persuadé que dans 2 ans, ça soit toujours le cas.
Ouais, puis Banchero, il a dû gérer un moment cette saison. Là, il y a eu une absence sur blessure de comment il s'appelle, de Franz Wagner, et il a plutôt bien réagi. Paolo Banchero, il a montré qu'il était vraiment capable de d'apporter pas mal de choses, quoi.
Tout à fait.
Donc voilà. Même si ses stats avancées à Banchero sont étonnamment pas folichon, quoi. Bizarrement. C'est assez bizarre en fait.
Ouais, après, encore une fois, 21 ans, hein, Banchero. Hein,
ouais, mais complètement. Vois, c'est beaucoup trop tôt pour jouer. Tu peux pas juger ces joueurs-là. Non. En tout cas, de manière définitive, c'est à tes risques et périls. Donc, je me permettrai pas de le faire, mais voilà. Je pense que, en termes d'efficacité, Franz Wagner est déjà un cran au-dessus et j'ai l'impression que ça. Qu'il a vraiment. Enfin, moi, je vois plus de probabilités que lui, il parvienne à se maintenir que Banchero, quoi.
Voilà. Je peux l'entendre.
On va parler des Sacramento Kings. Magnifique parcours la saison passée. C'était un peu le Magic de l'an passé, les Kings. Je déconne. Mais encore mieux, voilà. C'était assez incroyable ce retour en force de Sacramento dans la hiérarchie de la NBA.
Ouais, c'était bien.
Cette saison, ils sont 8e attaque de la Ligue, 20e en défense. La défense, c'est vraiment le problème. Ils oscillent entre le play-in et une qualification directe en play-off. Hein. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. On parle maintenant des Kings. Ils sont qualifiés. Ils sont combien? Ils sont 6e ou 5e? Ils sont 6e à l'Ouest.
Là, ils sont 6e, ouais.
Voilà. Dans une semaine, ça se trouve, ils seront totalement full play-in.
Je n'espère pas.
Et on verra bien.
Je n'espère pas.
Ils ont plus l'efficacité offensive historique qu'ils avaient l'an passé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont plombés par une défense qui n'est pas au niveau. J'ai l'impression quand même que depuis le début de saison, les hommes de Mike Brown sont capables de jouer n'importe qui. N'importe quel adversaire, en fait. Ils sont capables d'aller taper les Nuggets, d'aller taper n'importe quelle équipe. Sur un soir, ils sont capables de démonter tout le monde.
Ouais.
Mais voilà. Charlie, première question pour toi. Comment tu juges, d'un point de vue général, maintenant qu'on est à la mi-mars, comment tu juges cette saison de Sacramento?
Décevante. Moi, je reste un peu déçu de leur saison parce que.
C'est marrant.
J'espérais
pas du tout.
Mais en fait, moi, j'espérais qu'ils seraient capables de capitaliser sur ce qu'ils ont fait la saison dernière. Alors attention, je te dis pas qu'à partir du moment où t'as terminé une fois sur le podium à l'Ouest, tu dois être tous les ans sur le podium à l'Ouest. C'est pas ça. Mais c'est vrai que je les voyais quand même, tu vois, se situer assez tranquillement, au moins autour de la 4e, 5e place. Enfin, tu vois, tu l'as dit, leur attaque, c'est la 8e de la Ligue. Alors, il y a du mieux, depuis l'All-Star Game, ils sont un peu remontés en la matière, je crois qu'ils sont 4e ou 5e. En fait, en soi, il n'y a pas un écart énorme entre leurs chiffres de la saison dernière et ceux de cette saison.
C'est le niveau général.
Et ouais, exactement. Mais exactement, c'est un peu ça. C'est les équipes adverses qui se sont, qui ont monté de niveau, qui se sont adaptées aussi. Bon, écoute, moi, je croise les doigts de manière très égoïste pour qu'ils soient pas au play-in, parce que ils nous tabassent à chaque fois. Et quand je dis nous, je parle des Lakers, évidemment. Cette saison, c'est 4 matchs, 4 victoires. Et je vais même te dire, il y a une stat qui est terrible. Anthony Davis, en carrière, n'a jamais battu Sabonis.
C'est drôle.
10 matchs, c'est quoi, cette 10 défaites.
C'est fou.
C'est dingue, hein.
C'est n'importe
Donc,
quoi.
Donc, je préférais qu'ils se qualifient directement pour les playoffs. S'il vous plaît, les gars, faites un effort. Mais non, et c'est... Je trouve qu'ils ont trop aujourd'hui de... Ils ont trop de certitude et de force pour jouer le play-in, en fait. Tu vois, en fait, c'est ça qui me déçoit. C'est qu'on parle des Kings comme d'une équipe potentielle du play-in, alors que je trouve qu'ils ont un niveau qui devrait leur permettre d'être au-dessus de ça.
Moi, je me suis jamais fait d'illusions concernant Sacramento.
Tu vas te faire des amis, toi.
Mais non, mais attends, mais laisse-moi développer un argument, merde, c'est pas possible, ça. Tout de suite, le mec, il me saute dessus, quoi. L'an dernier, le parcours était absolument formidable, et Sacramento avait été aussi très largement épargné par les blessures. C'était tout nouveau, c'était tout chaud, c'était tout beau, et il y a eu aussi l'effet de surprise. Qui fait que, je pense, ça a beaucoup aidé cette équipe à atteindre cette troisième place, c'est ça, hein, troisième place de la Conférence Ouest.
Ah ouais, tout à fait.
Cette année, sans aucun changement dans l'effectif, je voyais mal cette équipe, avec en plus un retour à la réalité, c'est-à-dire avec des joueurs qui allaient, il y a eu des petits pépins physiques, des absences plus ou moins longues de joueurs clés. Et comme c'est une équipe qui se repose beaucoup sur son collectif et la force de son collectif, dès qu'il commence à manquer des éléments, ça devient beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Donc ça m'étonne pas, et je trouve que leur saison allait à l'image de ce que je m'attendais d'eux, en fait. Et à l'intersaison, là, avant la trade deadline, j'aurais aimé voir Sacramento faire un move, je me demande encore lequel j'aurais aimé voir. Je ne me suis pas posé la question assez longtemps et de façon assez poussée pour pouvoir avoir un avis assez pertinent et le partager avec vous maintenant. Mais j'ai juste constaté le fait que les Kings ont décidé de faire le statu quo. Et je pense que les ambitions... Voilà, elles sont pas folles à Sacramento pour l'instant. Il ne faut pas oublier que Sacramento, pendant plus de 20 ans, ou je sais pas combien de temps ça a duré, cette histoire, c'était la purge pas possible.
Oui, mais ça, c'est le passé.
Et là, non, mais ils viennent à peine de remettre les pieds en playoff. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est se stabiliser, avoir un effectif qui tienne à peu près la route. T'as De'Aaron Fox, t'as Sabonis, il faut les entourer, t'as Keegan Murray. La vraie question des Kings, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment tu bouges les pièces aujourd'hui dans ton effectif pour essayer de passer le cap supérieur, être autre chose qu'une équipe de play-off? Mais être une équipe de play-off, il n'y a pas à rougir de ça, c'est très bien.
Oui.
C'est jouer le titre, bordel, mais c'est réservé à une petite poignée d'équipes chaque année, quoi.
Ouais, mais je suis d'accord, mais là, il y a quand même un monde où les playoffs, ils les voient même pas, en fait. C'est ça, moi, qui me...
Oui, alors tu ça, oui, effectivement, s'ils jouent le play-in et qu'ils se font taper au play-in, c'est relou. Mais regarde les équipes de play-in, aujourd'hui, c'est les Suns, les Mavericks, les Lakers, les Warriors. N'importe quelle de ces quatre équipes qui se fait claquer, qui va sortir des playoffs à l'Ouest, ça va être...
Bien sûr.
Mais on va en entendre parler pendant des jours et des jours et des jours, et on en aura bien raison.
Mais parce que tu vois, typiquement, là, sur leur fin de saison, les Kings, ils ont une double confrontation avec les Mavs. Ça va être tellement passionnant.
Ça va être génial.
Mais ça va être trop, trop bien. Ça va être génial. Mais ouais, non, moi, c'est pour ça, en fait, que je suis un peu déçu. C'est que, pour moi, à un mois des playoffs, j'avais envie de voir Sacramento dans une situation où ils envisageaient les playoffs, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils peuvent pas encore envisager les playoffs. Aujourd'hui, il faut être encore dans la bagarre. Tu peux pas prendre les matchs à la légère. T'es obligé de tout jouer à fond. Et ils le font. Et Sabonis, t'as parlé de Sabonis tout à l'heure. Il est extraordinaire. Si on prend que l'année 2024, ce qui représente quand même plus de 30 matchs maintenant, Sabonis, c'est le meilleur rebondeur de la ligue, le quatrième meilleur passeur. Le gars tourne à 14,7 rebonds et 9,3 passes. Je sais pas si on se rend compte.
C'est n'importe quoi.
Il est extraordinaire. Moi, il y a un scénario.
C'est lui qui a fait le plus de triple-double cette saison.
Ouais, tout à fait.
Pour ceux qui accordent une importance incroyable à cette stat.
Et c'est fou. Alors moi, il y a un scénario. Je regardais un peu quand je préparais le podcast là, les bilans des équipes face aux autres. Enfin, tu vois les bilans de toutes ces équipes là face aux équipes qui sont actuellement au play-in. Et tu sais que donc la saison dernière en play-off, les Kings se font sortir en 7 matchs par les Warriors au premier tour. Mm-hmm. Et cette saison, sur les 4 matchs que les Kings et les Warriors ont joués, il y en a 3 qui sont joués à 1 point d'écart.
C'est ouf.
C'est assez dingue, hein. Mais moi, je veux trop un match entre les Kings et les Warriors.
Tu veux un match du play-in pour les Kings et les Warriors. D'accord. Super.
T'imagines l'horreur. Non, mais donc ouais, je... Ils ont une fin de saison où il y a des matchs compliqués, hein. Enfin, vraiment, là, il y a réception des Knicks, des Sixers, des Clippers, des Suns, deux fois les Mavs. Ils se déplacent à New York, à Boston, à Oklahoma City. Et ça va être difficile comme fin de saison pour Sacramento. Et il y a vraiment un monde où Sacramento finit par ne même pas du tout jouer les playoffs.
Ouais, ils ont le 8e calendrier le plus compliqué de la fin de saison. Là.
Ah, c'est chaud, hein, c'est bon courage. Et vraiment, les deux confrontations face aux Mavs, qui sont les 26 et 29 mars, ça va valoir très très cher.
Mais ce que je te disais tout à l'heure, après, ce qui est assez fou avec cette équipe, c'est qu'elle est capable de gagner contre... voilà, elle va perdre contre Houston et elle va gagner contre Milwaukee, quoi. C'est ce qui s'est passé cette semaine.
Non, mais elle peut perdre aussi contre tout le monde, sauf contre les Lakers.
Ouais. c'est une équipe qui est vraiment en dents de scie. Pour moi, la question principale que je me pose concernant les Kings, au-delà de cette saison-là... Je me fais pas d'illusions sur leur sur ce qu'ils vont faire en play-off cette année. Je me demande s'ils vont passer un premier tour. Ça dépendra beaucoup de l'adversaire, j'ai envie de dire. Et s'ils y sont, bien sûr. Mais sixième, aujourd'hui, t'es sixième à l'ouest, tu joues contre qui ?
Bah, contre les Wolves.
Tu joues contre les Wolves, ah bah tiens, tu vois.
Ouais, c'est peut-être le seul adversaire que tu peux...
pas complètement impossible de passer un tour. Bref, on verra ça au temps voulu. Pour moi, une des questions les plus intéressantes concernant les Kings aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais avec cet effectif ? Et quelle décision tu dois prendre concernant cet effectif ? Et j'ai noté, en préparant ce podcast, le joueur qui, pour moi, est une vraie révélation côté Kings, c'est Keon Ellis, qui est vraiment un joueur qui est starter là, pour les Kings pour des raisons de blessure. Je crois qu'ils sont à 6 victoires, 0 défaites depuis qu'il est rentré dans le 5 majeur. Tous les joueurs l'adorent. Ce qu'il apporte surtout, à mon sens, ce Keon Ellis sur le terrain, c'est de la défense.
Bien sûr.
La défense qu'ils n'ont pas à ce poste-là, ni avec Kevin Huerter, ni avec Malik Monk. Et je sais que Malik Monk, c'est un joueur que tout le monde adore côté Kings, parce que il est super pote avec De'Aaron Fox, et c'est vraiment la paire de scoreurs, c'est flashy, c'est sexy, ça balance des shoots, et quand ça rentre, c'est absolument génial, c'est transcendant. Je pense que les Kings, à un moment ou à un autre, vont devoir faire des choix assez compliqués, en fait, s'ils veulent construire un effectif qui a du sens autour de Fox et Sabonis. Et j'ai peur que Monk, quand tu vois le gouffre défensif que c'est Monk et Fox ensemble sur le terrain, je vois pas comment tu peux continuer à penser que Monk, ça va faire sens au-delà de... Sachant qu'il est en fin de contrat, hein. Il doit être signé ou pas à la fin de la saison là.
Tu gardes plutôt Monk que Werther ? Tu te sépares plutôt de Monk.
Moi je vire les deux.
Ah ouais, les deux.
Moi je vire les deux et j'essaie de récupérer quelque chose pour ces deux gars là, quoi.
Ok.
Et Malik Monk, c'est un sinu que tu fais un sign and trade quelque part, quoi. Soit tu récupères des picks, mais bon, ils en sont pas là, les Kings, aujourd'hui. Soit tu récupères un joueur, faut voir comment ça se passe. Soit t'accroches Monk, parce que pareil, t'as, comment il s'appelle, Harrison Barnes.
Bah, Harrison Barnes, c'était le gros sujet au moment de la trade deadline.
Qui est tout le temps dans les conversations de est-ce qu'on le transfère, est-ce qu'on le transfère pas. Lui, il est signé jusqu'en 2026.
Ouais, et cette saison, il y a des moments où il a vraiment été en difficulté, hein.
Voilà. Donc, En fait, c'est là le pour moi la plus grosse question. C'est quand est-ce que les Kings, pour moi, seront à prendre au sérieux le jour où ils prendront les décisions difficiles qu'il va falloir prendre pour entourer De'Aaron Fox et Sabonis. Avec un personnel qui est adéquat. Parce que Fox et Sabonis, alors Fox défensivement c'est moins compliqué, mais ils ont besoin d'avoir autour d'eux des joueurs qui défendent.
Oui. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est clair que c'est vraiment ce qui leur manque.
Idéalement qu'ils font les deux, quoi. Mais tu peux pas avoir un défenseur qui sait pas tirer. Mais c'est là où je vais commencer à les prendre au sérieux. Mais autrement, non, quoi.
Ouais. Non, mais effectivement, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Et moi, je comprends tout à fait qu'il y ait pas eu de gros mouvements l'été dernier parce qu'ils sortaient, bah, effectivement, de la saison où ils retrouvaient les playoffs, etc., etc. Maintenant, là, il faut voir ce qu'ils veulent vraiment et à quel point ils sont prêts à s'en donner les moyens.
Tout à fait. Tout à fait. Et encore une fois, je pense que là, ce passage en playoffs, faut voir. Enfin, ça peut être que bénéfique encore une fois pour une équipe qui reste malgré tout relativement jeune.
Oui, et puis
et voilà, il faut aujourd'hui essayer de construire autour de Fox. Il a 26 ans, Sabonis il a 27 ans. C'est un peu maintenant qu'il faut faire qu'il faut prendre les décisions idéalement, quoi.
Tout à fait.
Mais il faut les prendre. Et tant que tu les prendras pas. Et c'est là aussi la plus grosse, une des plus grosses questions autour des Kings. Alors il y a eu un changement dans le front office, hein. Monte McNair et tout ça. Jusqu'alors il a fait ses preuves. Il y a un autre palier à franchir désormais. C'est bien, c'était fun, on a bien rigolé, c'est cool, ça a atteint les playoffs plus ou moins en serrant les dents. Comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, on n'est pas encore, ils sont pas
ouais,
encore
sortis, ça, on
ils sont
y est pas encore, hein.
Ils sont pas encore sortis de l'auberge. Mais voilà, si t'es sérieux, bah maintenant t'as des décisions à prendre en termes d'effectifs, quoi.
Oui, c'est ça. T'as clairement identifié quels sont tes besoins et en fonction, il faut que tu fasses les mouvements nécessaires à l'intersaison.
Où tu restes, cette équipe, hyper fun offensivement, c'est génial, c'est capable de planter 140 points dans une rencontre, c'est rigolo, light the beam, Malik Monk, tout ça, trop bien, mais on n'est pas sérieux pour faire autre chose, quoi. Ok. C'est pas dramatique, hein.
C'est pas dramatique, mais ce serait
décevant. Il y a des clubs qui font ces choix-là.
Oui, bien sûr, mais ce serait décevant, quand même.
Ce serait décevant. Après, t'as des discussions encore plus compliquées que ça qu'on pourrait avoir, mais on va pas les avoir maintenant, on va passer aux Pelicans. Mais la vraie question centrale, c'est est-ce que De'Aaron Fox et Sabonis, tu vas au titre avec eux? Et je pense que c'est possible.
Ah ouais?
Je pense que Fox et Sabonis, s'ils sont bien entourés, si tu bâtis un effectif vraiment...
Dans la NBA actuelle, là?
Je dis pas que c'est simple. Je ne sais pas que c'est simple du tout. Mais ce n'est pas complètement impossible.
Écoute, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Peut-être que je suis trop fan de De'Aaron Fox pour être objectif. Mais ce que propose Sabonis cette saison, et tu l'as dit toi-même, et ce dont est capable De'Aaron Fox, qui était le joueur le plus clutch de la NBA cette saison, et qu'il est encore la saison dernière, et qu'il est encore... fait encore partie de l'élite cette saison. Si ces joueurs-là sont bien entourés, je pense que ça peut le faire, quoi. Aujourd'hui, enfin pour moi l'étalon c'est les Nuggets. Les Nuggets pendant longtemps ils ont végété qu'une équipe avec laquelle ils allaient nulle part. C'est pas quand t'avais Will Barton, Monte Morris, que j'adore Monte Morris, hein. Mais c'est pas quand t'avais ces joueurs-là que t'allais quelque part, quoi.
Bah, tu sentais quand même que Jokic, c'était...
Ouais, mais la vraie question que je me pose, moi, c'est est-ce que des mecs comme Jeremy Grant... Enfin, si Paul Millsap a permis d'ouvrir les yeux un peu au front office, en se disant, tiens, il faut un poste 4... Le poste 4 est hyper, hyper important à côté de Jokic, quoi.
Non, mais après, ce qui est clair, c'est qu'un titre, ça te tombe pas tout cuit dans le bec. Les Nuggets, ils ont enchaîné 5, 6 campagnes de playoffs consécutives avant de pouvoir aller jusqu'au titre. Hein.
Après, il y a eu beaucoup de blessures.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais toutes les équipes ont des blessures.
Ça a été enrayé beaucoup par les blessures, mais le fait est que de récupérer, re-regarder le transfert pour Aaron Gordon, ils l'ont eu pour un paquet de cacahuètes et 2 euros. On parlait de Gary Harris tout à l'heure, il faisait partie de ce transfert-là. Aaron Gordon, qui était un joueur tout de, enfin qui était mal aimé au Magic parce qu'il était aussi mal casté là-bas, on lui demandait de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire. C'était un mauvais rôle qu'on lui avait réservé. Et le fait est que Calvin Booth soit allé chercher Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr. qui leur tombe dans la musette en playoff parce que personne veut mettre la main sur lui à cause de ses problèmes de dos. Ça, c'est une chance inouïe. C'est rare, en fait, d'avoir une chance pareille. Michael Porter Jr., jamais de la vie, il devait tomber dans les mains des Nuggets à la base.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, lui-même ne s'y attendait pas quand tu voyais la tronche qu'il faisait pendant la draft.
C'était un vrai pari, comme Bol Bol a été un pari qui pour le coup, lui, a raté côté Nuggets.
Ouais.
Mais c'est dur de comparer Michael Porter Jr. à Bol Bol quand même.
C'est pas très sympa. Mais
c'est
bon.
Pas, non, mais c'est pas du tout le même profil. Michael Porter Jr. était censé être une superstar avant de se blesser.
Ah bah, c'était le meilleur lycéen. Exactement. Quand il était au lycée, c'était le meilleur lycéen. Il était. Non, mais de toute façon, il suffit même aujourd'hui de regarder jouer Denver pour se rendre compte que ce mec-là a un talent extraordinaire. Il atteindra jamais ce qu'on espérait qu'il devienne quand il était au lycée, où beaucoup de gens l'évoquaient comme un futur KD par exemple, ou des trucs comme ça. Mais il a un talent qui est hors norme.
On le dira jamais assez, la formule pour gagner un titre, c'est tellement difficile. C'est tellement un mix de plein de choses, de chances, de blessures, pas de blessures, match-up, bon match-up, pas bon match-up, je sais pas. Enfin, c'est assez fou en vrai, le truc.
Ouais.
Par contre, quand ça prend, quoi. Là, les Nuggets, c'est quand même compliqué de les voir. De pas les voir, enfin, c'est pas une équipe qui gagne le titre et qui s'écroule derrière, quoi, comme on a pu voir parfois.
Ah bah, s'ils sortent au premier tour des playoffs cette saison, on sera surpris, quoi.
Ah, c'est sûr, ouais. C'est sûr. On verra ça. On va terminer ce podcast en parlant des Pelicans, 11e attaque de la ligue, 6e défense et surtout 4e en net rating depuis la victoire des Lakers dans le in-season tournament qui avait humilié les Pelicans en demi-finale. Défaite de 44 points face à Los Angeles, tu t'en souviens, Charlie?
Oh oui.
Hein, le meilleur moment pour toi de la saison, le in-season tournament. Trophée magnifique. Futur trophée LeBron James.
Heureusement que tu n'es pas un hater de LeBron et des Lakers, n'est-ce pas?
Ah, il aura le trophée qu'il mérite. Je fais du troll, les gars.
Non, mais on sait.
Je
on
plaisante.
Sait.
Non, non, mais attends, je précise. Imagine. Ouais,
j'espère que les auditeurs.
T'écoutes pour la première fois le podcast, tu sais pas que c'est devenu un running gag.
C'est vrai.
Depuis le in-season tournament, donc les Pelicans affichent la deuxième meilleure défense de la ligue et le deuxième net rating de la ligue. T'as l'impression en fait que cette équipe depuis la mi-décembre, c'est un rouleau compresseur en vrai.
Ouais, je suis d'accord.
Zion Williamson qui se rapproche dangereusement de son plus grand nombre de matchs joués en une saison, qui était donc 61 matchs et là il est à 54, je crois, un truc comme ça. Il est de nouveau en train de nous démontrer ses qualités physiques, tout ça, qui ont fait de lui un des jeunes talents les plus attendus de la décennie. À côté, on trouve Brandon Ingram, toujours, ailier ultra talentueux, qui a énormément progressé dans sa création de jeu cette saison, en plus de sa capacité à scorer dans toutes les positions, surtout près du cercle. Énorme efficacité près du cercle cette saison, incroyable, Brandon Ingram. T'as Trey Murphy, joueur que j'adore absolument, qui a débuté la saison à l'infirmerie et qui ne cesse de démontrer son importance en sortie de banc. Herb Jones, la définition même du 3&D en NBA, un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. Il a 43% de réussite au tir à 3 points cette saison.
Ah, il est incroyable.
CJ McCollum, valeur sûre, vétéran respecté. Et pourtant, malgré tout cela, Charlie, je n'arrive pas à m'empêcher de me méfier de cette équipe pour tout un tas de raisons que j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui pour terminer ce podcast. Et pour commencer, je voulais un peu ton avis général sur cette équipe à l'approche des playoffs.
Bah moi, dans l'absolu, Seppel, c'est une équipe que j'aime bien. Tu sais à quel point j'adore Brandon Ingram depuis
les
années Lakers. je trouve que c'est un des joueurs les plus intelligents de la ligue à son poste, un des meilleurs passeurs. Alors, il est un peu moins brillant que la saison dernière. Il est un peu moins adroit, notamment à trois points. Il prend moins de lancers, mais ça reste, je trouve, un très très fort joueur. Herb Jones, tu l'as cité, il a connu une vraie belle progression pour sa troisième saison dans la ligue. Ça a toujours été un excellent défenseur, mais aujourd'hui c'est un shooter très fiable en plus. Zion, bon bah on croise les doigts. Franchement, j'ai presque pas envie de parler du nombre de matchs qu'il a joué tellement j'ai peur de lui porter la poisse, c'est tu vois.
Clair.
Mais ouais, Zion, il a pris une nouvelle dimension dans le jeu de son équipe depuis quelques semaines. Il a un rôle qui est beaucoup plus central dans l'organisation de l'attaque notamment. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça. En fait, je suis un peu surpris parce que je les attendais pas aussi haut. Alors, ça peut paraître étonnant de dire ça parce que aussi haut, tout est relatif. Certes, ils sont cinquièmes à l'ouest. C'est ça, ils sont toujours cinquièmes. Oui, ils sont cinquièmes. Mais les écarts sont tellement minimes qu'en réalité, il suffirait de 3-4 matchs un peu loupés pour se retrouver dans le play-in. Mais ouais, je trouve qu'ils ont passé un cap défensivement depuis All-Star Game. Tu l'as cité, t'as cité leurs chiffres depuis la mi-février. C'est très solide. Alors, malgré ça, leur bilan collectif est pas transcendant, parce que sur la période, donc depuis le All-Star Game, je crois qu'ils sont quelque chose sur un bilan comme 6 victoires pour 4 défaites, donc c'est pas non plus hallucinant.
Et ils se sont surtout gavés sur des équipes, sur des adversaires qui sont pas tip-top, quoi.
Voilà.
Ils ont plutôt eu un calendrier favorable depuis fin janvier, début février. Si tu regardes un peu les adversaires, la qualité était moindre, et je pense que ça a pas mal boosté les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure.
Bah, c'est
et,
ça.
Et là, je pense qu'il y a un vrai test à venir dans les prochaines semaines. Si tu regardes le programme qui les attend, ça va beaucoup moins rigoler du côté des Pelicans, quoi.
Oui.
Ou plutôt, tu peux aussi voir le truc différemment, c'est que tu vas avoir un vrai test, on va dire.
Ben, en fait, au-delà de l'identité des adversaires, moi, j'ai besoin de les voir gagner des matchs où ils sont pas adroits. Parce que le match qu'ils perdent là, face à Cleveland et qui met fin à leur série de 4 victoires, ils le perdent parce qu'ils mettent rien dedans à 3 points. Ils sont à 4 sur 22 sur l'ensemble de la rencontre, alors que normalement, c'est une des équipes les plus adroites de la ligue. Même s'ils ont pas, ils prennent pas un volume qui est considérable, ils sont dépendants de ceux qui prennent et de ceux qui mettent, c'est évident. Donc oui. En fait, ce qui est difficile dans le jugement qu'on fait sur eux, c'est que ils ont joué, tu l'as dit, ils se gavent face à des équipes qui sont plus petites. En fait, depuis le All-Star Game, c'est simple, ils n'ont joué que des équipes de l'Est et Houston. C'est quand même hallucinant. Donc, alors,
ils sont encore à peu près peinards jusqu'à la fin mars.
Ouais.
D'ici la fin mars, c'est les Clippers, les Blazers, les Nets, Orlando, Miami, Détroit. Et à partir du 27 mars, là, les choses sérieuses commencent. T'as le Thunder, les Bucks, Boston, Phoenix, Orlando, les Spurs, Phoenix, Portland, Sacramento, Golden State, Los Angeles. Grosso modo, t'as 90% des équipes qui jouent du seeding en playoff, quoi.
Et ben, c'est ça le truc. Non, mais même qui jouent plus que ça. Enfin, qui jouent.
La suite de leur saison.
Ouais. Et ouais, qui jouent le fait d'échapper au play-in. Parce que c'est ça qui est terrible avec les Pels. En fait, ils peuvent tout perdre. Enfin, pas tout perdre, mais ils peuvent perdre cette qualification directe en playoff sur les 5 derniers matchs de la saison. Sur les 5 derniers matchs de la saison, ils jouent 4 fois des concurrents directs. Tu l'as dit, Phoenix, Sacramento, Lakers et les Warriors. Et si les écarts sont toujours aussi resserrés que ce qu'ils le sont actuellement, cette série de rencontres, elle peut changer énormément de choses au classement. Et si les Pels gèrent mal leur fin de saison, ou si Zion a mal, ou si Zion est blessé, ou si Brandon n'est pas là, ben ça peut dégringoler à toute vitesse au classement. Et c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu, surtout quand j'entends Willie Green, que je respecte beaucoup et qui fait du très très bon boulot, mais qui a récemment évoqué le cap des 50 victoires en saison régulière. 50 victoires en saison régulière, ça voudrait dire que sur les 17 derniers matchs, il faut en remporter 11. Alors, si ça arrive, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront qualifiés directement en play-off, pardon, mais enfin, c'est quand même c'est un sacré objectif. Ça demande de faire une très très grosse fin de saison.
Complètement. Et logiquement, cette équipe devrait y parvenir. Je veux dire.
Bah, ce serait la suite logique.
Il y a quand même un effectif absolument dingo, quoi. Parce que, voilà, on parle de Zion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum, Valanciunas, bien que Valanciunas. Ces derniers temps, Willie Green fait des tentatives de mix sur ces cinq qui sont très intéressants, notamment l'effectif avec Williamson, Ingram, McCollum, Herb Jones et Trey Murphy, qu'il n'a pas beaucoup utilisé cette saison, mais auquel il commence à donner vraiment de plus en plus de minutes. Donc, grosso modo, ça revient à mettre Williamson en poste de pivot. Et c'est assez mortel, les résultats qu'il a. Alors, ils ont joué quoi? Ils ont joué au total 27 minutes ensemble. donc quasiment rien. Mais les chiffres, pour l'instant, les premiers retours sont en termes de stats avancées, c'est complètement dingo. Un retour à la normale sera probablement à attendre. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est effectif. Il y a du talent, Williamson, McCollum, Brandon Ingram, et t'as un banc de dingue. T'as Alvarado, Trey Murphy, Najee Marshall, Larry Nance Jr. Dire, cette équipe, on est là à se dire, ah ouais, dis donc, est-ce qu'elle va faire le play-in ou est-ce qu'elle va pas faire le play-in? Et en fait, c'est là où je la trouve bizarre, cette équipe. C'est que je me dis qu'on devrait pas parler de cette équipe-là comme ça. On devrait pas en parler comme une équipe à l'arrache pour se qualifier, pour éviter le play-in, en fait.
Je suis d'accord.
Ça me fait bizarre de parler de cette équipe-là de cette manière-là, étant donné le talent qui inonde cet effectif.
Oui, et puis étant donné l'historique, parce que, en fait, c'est la suite logique, en fait, aujourd'hui, de se qualifier directement au play-off pour les Pels. Ça fait deux saisons d'affilée qu'ils y sont au play-in. En 2022, ils sont battus par OKC, ils finissent 9e. La saison dernière, ils gagnent face aux Spurs, puis face aux Clippers, ce qui leur permet d'accrocher les play-offs. Mais, ça suffit. Vous avez une équipe qui est suffisamment forte pour aujourd'hui viser la qualification directe. C'est ça, aujourd'hui, qu'on attend de la part des Pelicans.
Complètement. Complètement.
Mais je suis pas assez confiant pour dire ils vont y arriver.
Mais moi non plus. Et c'est ça qui me contrarie, en fait. Et à chaque fois, très sincèrement, hein, je crois qu'à chaque fois que j'ai investi un peu, je me suis investi un peu émotionnellement sur les Pelicans en me disant attends, c'est bon, tout ça, trop bien, trop fun, trop, elle est géniale, cette équipe. Et franchement, j'adore cette équipe. Herb Jones, Trey Murphy et Najee Marshall, je pense que ça fait partie des trois joueurs, c'est des trois des joueurs que je préfère regarder dans toute la ligue, quoi.
Ouais.
Ah, tu sais très bien que Najee Marshall, j'ai une espèce de fascination malsaine envers ce joueur. Je sais pas pourquoi, j'adore le voir jouer. Mais Trey Murphy, c'est pareil. Trey Murphy, pour moi, c'est une star cachée de cet effectif, en fait. Et il y a qu'à voir ce qu'il fait ces derniers temps là pour les Pelicans sur le terrain, c'est juste n'importe quoi, en fait, comment il est trop fort.
Ouais, non, mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord.
Donc je sais pas. Je tends à croire que les Pelicans, j'attends le déclic, voilà. J'attends le déclic. Mais je me dis est-ce que le déclic va arriver?
Ouais, c'est ça,
il arrive jamais.
Il viendra quand, le déclic, quoi?
Il arrive jamais.
Non, là, ouais.
Et je parle même pas parce que là c'est pas juste et que là, c'est vraiment un ressenti très personnel qui n'a aucune valeur de quoi que ce soit. Mais personnellement, quand je regarde Zion, aussi impressionnant soit-il physiquement dans le jeu et tout ça, et en sachant tout ce qu'il est capable de faire sur un terrain, malgré tout, je trouve que il a énormément de progrès. Il est jeune, hein, mais il a énormément de progrès en termes de leadership sur le terrain, quoi. Je trouve qu'il a pas, en termes d'attitude et tout ça, c'est pas, enfin, je sais pas.
Ouais, après, le leadership, ça se travaille.
Lui et Ingram, d'ailleurs, j'aime pas leur façon.
Attention, hein.
Non, mais
je rigole, mais bien sûr.
Je viens de chercher des poux.
Non, mais je suis d'accord avec
sans
toi.
Sans aucune hésitation, Charles.
Non, mais pour moi, Ingram n'est pas un franchise player. Hein. Ingram est un premier lieutenant de très grande qualité, mais j'ai du mal à le voir comme, en tout cas, comme ayant la mentalité d'un franchise player. Et Zion, c'est pareil. Alors après, le leadership, il y en a qui l'ont de base, tu vois, c'est inné, mais pour d'autres, ça se développe. Et en fait, si tu fais le bilan des matchs que Zion il a joué dans sa carrière en NBA, il a même pas fait trois saisons complètes. Donc,
ouais.
Donc ça, là-dessus, je vais lui laisser un peu plus de temps. Mais ouais, mais bon, c'est vrai que le déclic, il faudrait qu'il vienne. Et le scénario idéal, c'est que le déclic il vienne sur la fin de saison, là, parce que on l'a dit, ils vont jouer tous leurs concurrents directs. Il y a notamment une double confrontation face aux Suns.
Mais complètement.
Les 1er et 7 avril. Ça aussi, c'est une double confrontation qui va valoir très très cher, parce qu'aujourd'hui les Suns, ils sont juste derrière. Vraiment, ils sont à deux matchs. Un match, deux matchs, non, ils sont à deux matchs. Et c'est la première équipe play-in, ils sont 7e, donc bon, ça va être hyper intéressant.
Il va falloir suivre effectivement cette histoire de Pelicans, comme tu viens de le dire, et on va terminer là-dessus. Les Pelicans, à partir de la fin mars, dans 12 jours, là, le 27, quand ils jouent contre le Thunder, le match contre les Clippers là va être intéressant aussi, parce que pour le classement, c'est important. Bien que je crois qu'il n'y aura pas Kawhi parce qu'il a un problème de dos là, c'est des spasmes au dos, bref. Donc c'est un peu chiant ça.
Tu m'étonnes.
J'espère que ça va aller. Mais les Pelicans, effectivement, il y a un moment, ils vont rentrer dans le vif du sujet et on va voir de quel bois ils sont faits en fait. Est-ce qu'ils sont capables de répondre présent ou est-ce qu'ils vont faire comme trop souvent on les a eu faire, s'écrouler lamentablement, être incapable mentalement de prendre le dessus. Et je te dis encore une fois, je maintiens, vu le talent qui irrigue cette équipe, je ne comprendrais pas que cette équipe termine en play-in, quoi.
Bah ouais. Mais bon, maintenant, si tu as aujourd'hui là, tu devais te mouiller. On vient de parler des Pels et des Kings.
Ah oui, vas-y, j'ai envie de me mouiller, ouais.
Et bah, les deux se qualifient en play-off ou il y en a un des deux qui passe par le play-in?
Alors qui ça, pardon? Les Pels ou les Kings?
On vient de parler, ouais, Pels et Kings, qui sont 5 et 6 aujourd'hui.
Laquelle finit en play-in?
Est-ce qu'une des deux finit en play-in ou est-ce que les deux se qualifient directement? Il y a peut-être aussi un scénario où les deux équipes restent 5e et 6e, tu vois.
Alors attends, je vais ouvrir mon petit bilan du calendrier. Les Pels, ils sont où? Les Pels, ils sont 11e. 11e calendrier le plus compliqué restant à jouer. Les Suns sont 3e.
Ouais, les Suns, c'est compliqué.
Ouais, gros calendrier à venir. Et les Kings. Sachant que les Suns, ils ont récupéré à peu près tout le monde là. Mais alors putain, la défaite face à Boston là. Enfin, après, tout le monde perd contre Boston quasiment. Mais waouh, c'était pas Jojo quoi. Moi, j'ai envie de dire. Oh là là. J'ai envie de dire que les Pels se qualifient directement.
Ouais.
Et j'ai envie de dire que l'équipe la plus probable à terminer dans le play-in, c'est probablement les Kings.
Ok.
Les Mavericks, ils en sont où dans cette histoire de calendrier? Ils sont 26e en termes de classement, enfin de calendrier facile ou pas facile.
Ok.
Donc eux, ils sont plutôt bien barrés. Potentiellement, ils peuvent. Bien que Dallas, on en a parlé là. L'autre fois, après le All-Star Game, en disant « Ah, dis donc, t'as vu Dallas avec leur nouvelle recrue ?» Et puis, je crois que juste après le podcast, les mecs, ils s'étalent de tout leur long.
Mais de toute façon, à chaque fois qu'on parle d'une équipe, elle subit dans la foulée. Quoi.
C'est n'importe quoi. Mais bon, t'as l'impression qu'on raconte n'importe quoi dans ce podcast. Le podcast d'amateur, quoi. Les gars, faites autre chose, quoi. Donc bref, on verra. Et puis, j'ai l'impression que les Lakers et les Warriors, ouais, ils sont... Quasiment,
ouais, c'est pour l'instant c'est eux qui sont en train d'être décrochés. Là.
J'ai l'impression que c'est quasiment écrit qu'ils vont être là, quoi. Je vois pas comment ça va bien se passer. LeBron, on a des nouvelles là sur sa jambe, là, sur sa cheville ou je sais pas quoi là.
J'ai pas regardé les derniers reports, donc ça je saurais pas te dire.
Okay.
Mais en tout cas c'est clair que c'est les deux équipes qui sont le plus en train de lâcher. Bon, ça, on va voir. Là il se joue demain. Lakers et Warriors se jouent demain, je crois, ou après-demain. Non, c'est ça, c'est demain. Ouais, on va voir. Et ils se rejouent d'ailleurs en toute fin de saison. Ils se rejouent genre le 9 avril, je crois.
Waouh. Ah ouais, ça va être violent.
Ouais.
Parce que potentiellement, ils vont aussi se rejouer au play-in. James et Curry, quoi, le face-à-face interminable.
Les mecs qui ne se quitteront jamais toute leur carrière.
C'est clair. On verra ça. En tout cas, ouais, les Pels, je sais pas. J'ose plus, tu vois, je dis j'ose plus avoir d'espoir et pourtant je viens de te dire que c'est eux que je vois se qualifier. Donc tu peux mettre une pièce sur le fait qu'ils vont se faire têche.
Non, mais cette fin de saison, elle est
tellement. Ils vont même pas faire le play-in, tu vas voir.
Arrête.
Je rigole, c'est pas possible.
Oh, pauvre Brandon Ingram.
C'est pas possible. Ils peuvent pas faire ça. Non, ils peuvent pas. Mathématiquement, c'est impossible. T'inquiète pas. Ils seront au moins dans le play-in.
C'est bien.
Merci Charlie.
Écoute, merci à toi, c'était un plaisir.
Yes, et puis la semaine prochaine.
Ouais.
Sans doute. Yes. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, bien évidemment. Salutations à tous les gens qui nous envoient des messages voilà, pour nous dire que vous appréciez le podcast. Tout ça, c'est vraiment cool. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On en parlait tout à l'heure avec Charlie. Ça fait vraiment plaisir. On est ravis et c'est un bonheur de vous retrouver chaque semaine. On approche des playoffs, donc c'est trop cool. Voilà. Donc, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.